Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir pour moi de venir et de revenir en Wallonie, donc, où j'ai des attaches, certaines attaches. Je remercie donc les organisateurs d'avoir pensé à moi pour cette conférence. Ce dont j'aimerais vous faire part aujourd'hui, c'est d'une insatisfaction. Je suis un économiste du territoire, je précise économiste, parce qu'un certain nombre de choses que je vais vous dire, à un public, je pense, pour l'essentiel composé de gens qui s'intéressent à l'aménagement du territoire, un certain nombre de choses que je vais vous dire vont vous paraître probablement des banalités, d'accord ? Mais je crois que c'est important, quand on s'interroge sur les questions d'attractivité, de revenir sur les questions du développement territorial et d'essayer de comprendre quels sont les mécanismes qu'il y a là-derrière. Donc ma première insatisfaction, c'est avec les modèles qui sont aujourd'hui ce qu'on pourrait considérer un peu comme l'orthodoxie, le mainstream, disons, du développement territorial. Ce sont des modèles qui sont mis en place à partir du début des années 90, fin 80, début 90. Je veux parler des approches en termes de clusters, de milieux innovateurs, de modèles territoriaux d'innovation, etc. À mon avis, je ne suis pas le seul dans cette situation, ces modèles ne sont plus satisfaisants aujourd'hui pour rendre compte de ce qui se passe, comprendre, évidemment pour aussi donner certaines explications et certaines pistes du point de vue des politiques de développement territorial. Alors, et évidemment, il y a de nombreuses raisons à tout cela. Les temps ont changé. Si vous pensez à ce qui existait dans les années 80, les conditions qui existaient dans les années 80, début des années 90, la grande question, c'était la reconversion des régions industrielles, créer de l'emploi, assurer une certaine compétitivité des entreprises face à la montée, à l'époque, de ce qu'on appelait les tigres asiatiques, ce genre de questions. Aujourd'hui, bien sûr, on est dans un contexte complètement différent. Et je ne vais pas faire la liste des préoccupations qui sont sur l'agenda des politiques de développement territorial, mais elles sont beaucoup plus larges et beaucoup plus diversifiées, même si, bien sûr, les questions de chômage, les questions de compétitivité sont toujours présentes. Alors, en tout cas, ma thèse aujourd'hui, ça va être de dire qu'il y a une raison que j'aimerais traiter en particulier aujourd'hui qui rend ces modèles, non pas caduques, mais qui, disons, ces modèles doivent être mis à jour. Et cette raison, c'est la mobilité généralisée des consommateurs. Alors, poser cette question, comment réfléchir à la question de la mobilité des consommateurs, je vous propose, sur la base d'une idée de Roberto Camagni, qui peut paraître un petit peu économiciste au départ, de partir de l'idée qu'il existe une demande générale pour la ville et pour la région, et une offre générale de ville et de région. Alors, une demande pour la ville et pour la région, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire qu'il y a des personnes, des populations qui souhaitent habiter la ville, qui souhaitent travailler en ville, qui souhaitent s'éduquer en ville, qui sont à la recherche de lieux, d'espace public, qui souhaitent jouir d'un paysage, que ce soit un paysage naturel ou un paysage architecturé, agréable, qui souhaitent disposer d'activités culturelles, qui sont peut-être à la recherche d'une place de parc. Tout ça, ce sont des demandes qui, lorsqu'elles s'agrègent, forment cette demande pour la ville. Et on comprend bien que plus il y a des demandes pour la ville, plus cette ville est censée devenir dense et peut-être riche, etc., etc. Du côté de l'offre, on a également toute une série d'éléments qui constituent cette ville. Ce sera des zones d'activité, des zones de logement, des rues, des stades, des centres de congrès, etc., etc. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que toutes ces offres sont en concurrence spatiale les unes avec les autres. Là, vous avez les voies des chemins de fer, vous n'aurez pas le centre de congrès. Là où vous avez le centre de congrès, vous n'aurez en principe pas d'habitat. Donc il y a une concurrence spatiale. Du côté de la demande également, les différentes populations qu'on va trouver dans la ville vont être en concurrence spatiale. Là où vous pouvez avoir des tensions entre les touristes, les habitants, ou les ménages plutôt aisés, les ménages moins aisés, etc., etc. Et toutes ces offres et ces demandes vont se faire concurrence et s'articuler plus ou moins selon des transactions marchandes ou non marchandes dans la ville. Alors qu'est-ce que ça nous donne ? Eh bien, on peut construire une petite typologie des modèles de développement territoriaux, dans laquelle on va tout d'abord distinguer la demande, une demande extra-locale et une demande locale, donc la demande locale est exprimée par les habitants sur place. Et puis, du côté de l'offre de la ville, on va séparer les choses en deux. On va mettre d'un côté la ville comme lieu de production, ça veut dire évidemment une ville dans laquelle les entreprises vont pouvoir trouver des zones industrielles, des services complémentaires, un marché de l'emploi, des compétences, des instituts de formation, etc., etc., des infrastructures de transport, etc. Et puis la ville comme lieu de consommation, comme cadre de vie, ça a déjà été évoqué jusqu'à présent. C'est une ville évidemment dans laquelle on va trouver eh bien, de l'habitat, des espaces publics, des infrastructures culturelles, des événements, etc. Et la suite de mon exposé va consister à remplir les quatre cases. Le premier modèle, donc ce modèle classique, ce modèle des, qu'on pourrait appeler des clusters, des systèmes territoriaux d'innovation, eh bien c'est le modèle classique de la société industrielle, celui qui est basé sur la capacité locale à dégager des flux d'exportation. À partir de ces revenus, eh bien, on va avoir un certain développement urbain. Vous voyez ici, je vous ai mis un exemple tout à fait au hasard de montres suisses, de montres de l'arc jurassien, qui sont évidemment vendues dans le monde entier et qui, en aval, donnent le développement de cette ville, par exemple de La Chaux-de-Fonds, qui est vraiment un peu l'exemple, l'archétype d'une ville industrielle, une ville qui s'est complètement construite autour des usines. Vous avez de nombreux exemples de ce type-là en Wallonie. Vous avez une entreprise, ou petite, grande, ou un ensemble d'entreprises, et autour, vous allez voir se développer, en aval du point de vue économique, eh bien, des quartiers ouvriers, des quartiers bourgeois, des rues, des infrastructures sportives, culturelles, l'hôtel de ville, etc., des commerces, bien sûr. Donc, dans ce modèle-là, eh bien, c'est une focalisation sur l'innovation, la compétitivité. Enfin, vous connaissez tous ce discours. Donc, on a un premier cas qui s'adresse à une demande extra-locale, la demande pour les produits les productions spécialisées. Et puis, la ville, évidemment, ici, est vue premièrement comme un lieu de production. Toutefois, ce qui est bien important de comprendre, c'est qu'en aval, justement, on a cette construction, cette urbanisation qui se fait et qui permet le développement de services locaux, toute une économie qui s'adresse aux besoins de la population locale, avec évidemment un accent sur le commerce de détail, l'immobilier, les services personnels, etc. Maintenant, j'aimerais juste vous raconter une petite anecdote. Je viens de cette région de l'arc jurassien qui correspond quelque part en tout point à ce qu'on appelle des clusters ou des milieux innovateurs. Une région qui est compétitive sur le plan mondial, puisque vous savez que l'horlogerie est un succès, 20 milliards d'exportations chaque année, la machine-outil, la microtechnique. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette région, qui correspond encore une fois en tout point au modèle, est et reste la plus pauvre de Suisse. Et ça n'est pas une exception. Si on regarde les pays d'Europe occidentale ou d'Amérique du Nord, on s'aperçoit que ces régions industrielles, très souvent, sont parmi les plus pauvres des pays dans lesquels elles sont localisées. Alors la question qu'on peut se poser, bien sûr, c'est pourquoi ? Comment ça se fait ? Et une des premières raisons qu'on va pouvoir observer, c'est le fait que nous assistons aujourd'hui à une mobilité généralisée des travailleurs. Si je prends le cas de l'arc jurassien, les personnes aisées aujourd'hui n'habitent plus ou peu dans la région. Une bonne partie des personnes aisées placent leur famille dans les villes qui sont dans l'entourage de cette région. Et on a également évidemment les travailleurs frontaliers, qui sont très nombreux et qui vont effectuer leurs dépenses en France. Et même si on en reste maintenant aux personnes qui habitent effectivement et travaillent dans cette région, une bonne partie d'entre eux, soit vont passer leur retraite sous d'autres cieux, soit ont des périodes de vacances de plus en plus longues, soit vont étudier en dehors de la région, soit encore vont faire leur shopping à quelques kilomètres, une heure de voiture, et dépenser leur argent ailleurs. Le résultat de cela, eh bien, c'est que cet effet induit, qui était un des grands avantages du modèle industriel. Quand vous aviez un emploi créé dans l'industrie, vous aviez encore un emploi ou quelque chose comme ça qui était créé dans les commerces ou dans l'administration ou dans les écoles en aval. Et bien finalement, ce multiplicateur aujourd'hui, il ne fonctionne plus si bien que ça. Et la raison laquelle est, eh bien, c'est bien sûr la mobilité des consommateurs. Donc on a des fuites généralisées dans des régions comme celle-ci. Alors il existe un autre modèle de développement territorial classique, c'est celui des régions touristiques. Ce modèle du développement a été généralisé aujourd'hui et fait l'objet de nombreux travaux en France, notamment par Magali Talandier à Grenoble. Et on appelle ça aujourd'hui l'économie résidentielle et présentielle. L'idée est la suivante, c'est que dans une société hypermobile, eh bien, le développement territorial, ça consiste à capter les dépenses des consommateurs. Quand on dit les consommateurs, c'est premièrement ce que nous on appelle les pendulaires et ce que vous appelez, je crois, les navetteurs, mais aussi les retraités. Nous sommes dans des sociétés dans lesquelles les retraités représentent une partie de plus en plus importante de la population et un pouvoir d'achat tout à fait considérable. Les étudiants, nous sommes aussi dans une société dans laquelle les temps d'études ont tendance à s'allonger. les rentiers. Quand on dit rentiers, c'est bien sûr les gens qui vivent de leur fortune, mais c'est aussi les chômeurs, les personnes handicapées, tous ceux qui vont toucher un revenu qui n'est pas lié à leur travail. Ce seront bien sûr les touristes, dont on sait qu'ils sont en croissance constante depuis des dizaines d'années et qu'ils continuent à croître. Les gens qui vont faire du shopping à gauche à droite, qui vont le tourisme de loisirs, d'achat, le tourisme de santé, etc., etc. Donc ici, la focalisation elle est sur l'attractivité et de plus en plus, les concepts qu'on utilisera, ce sera l'experience economy et il y aura évidemment un accent sur les services personnels, l'immobilier, etc. Voilà, ici, je vous ai mis le festival de jazz de Montreux où on voit des hôtels 1900, donc c'est une très vieille histoire hein, dans les stations touristiques. Cette capacité à attirer les touristes et puis ceci débouche sur une certaine production urbaine. Alors ce sur quoi il faut insister, c'est qu'aujourd'hui, la dimension cadre de vie, elle a toujours été importante. Mais de plus en plus, elle est importante non seulement du point de vue de la redistribution locale des revenus qu'on a gagnés à l'exportation, mais elle devient importante en tant que telle. Puisque, et là c'est peut-être là qu'en tant qu'aménagiste, vous allez me dire que j'enfonce des portes ouvertes, la qualité du lieu, sa capacité à attirer des résidents et des consommateurs, elle devient absolument primordiale, elle devient essentiel, central dans les stratégies de développement territorial, et non plus seulement pour les stations touristiques, qui historiquement ont toujours joué là-dessus, mais pour l'ensemble des territoires, les régions industrielles, les régions métropolitaines, les régions touristiques, les régions rurales. Alors souvent les gens disent, oui, mais attention, toutes les régions ne peuvent pas jouer dans ce cadre-là. Il faut soit avoir un beau paysage de montagne, soit être situé sur la côte, soit avoir un patrimoine culturel important. En fait, je ne crois pas. C'est un construit territorial comme un autre. Je me permets ici de vous donner alors deux exemples caricaturaux, mais qui montrent quand même que c'est une préoccupation extrêmement importante aujourd'hui. Le premier, c'est Dubaï, une ville qui en 25 ans a été construite sur du sable. Un succès absolument extraordinaire de captation des revenus pour toute la région du Moyen-Orient et au-delà. Et j'insiste également sur le fait que cette économie présentielle et résidentielle peut déboucher sur des grands flops. Là, je vous ai mis l'autre exemple, celui de Ciudad Valdeluz. Vous savez qu'en Espagne, dans les années 2000, on a assisté à la construction de villes entières sur la base d'un récit d'économie résidentielle. Il s'agissait de permettre aux retraités d'Europe du Nord de venir passer leur retraite en Espagne sous des cieux avec un climat meilleur, avec des services moins chers, etc., etc. Tout cela, on sait comment ça a fini, ça a été un flop total. Pardon. Encore une dernière remarque, certains vont dire, oui, mais cette économie résidentielle, présentielle, elle n'est que marginale, elle ne fait que corriger finalement, que redistribuer un certain nombre de richesses qui ont été créées par l'industrie productive. Alors on a fait, nous, des évaluations, on a pas mal travaillé sur les données dont on pouvait disposer du point de vue des revenus régionaux, et on a calculé les revenus basiques dans une région. Les revenus basiques, c'est tous les revenus qui rentrent hein, et qui, quelque part, permettent, entre guillemets, de faire vivre la région. Et on a fait ces calculs à l'échelle des marchés d'emploi, de bassins d'emploi, je ne sais pas comment vous appelez ça. Et je tiens à préciser tout de suite que ces résultats sont valides non seulement à l'échelle des bassins d'emploi, mais également pour des régions plus grandes. D'accord ? Donc il ne s'agit pas d'un effet d'échelle, en tout cas pas jusqu'à une échelle relativement élevée. Il s'agit de résultats qui sont valables de manière générale pour la Suisse. Alors, si on prend ces revenus basiques et que le 100% des revenus basiques qui entrent dans une région en moyenne en Suisse, eh bien, vous voyez que le premier poste, ce sont les pendulaires, les naveteurs, un tiers. Un tiers des revenus d'une région en Suisse, en moyenne, sont le fruit de personnes qui travaillent ailleurs et qui viennent s'établir, dépenser, résider dans une région. Deuxième poste, les rentiers. Je parlais retraités, les bénéficiaires d'aide sociale, les gens qui vivent de leur fortune, 30%. C'est considérable également. Il s'agit des revenus, hein, il ne s'agit pas du nombre de personnes. Si vous ajoutez le tourisme, 4%, vous voyez qu'on est déjà à 70%. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que ces flux, on ne peut pas les négliger. Ils sont absolument déterminants du point de vue du développement territorial. La Suisse reste un pays extrêmement industrialisé, avec quantité de services internationaux, par exemple, extrêmement compétitifs, dans le domaine de la finance, par exemple, des assurances, etc. Et vous voyez que quand on ajoute l'agriculture, l'industrie, la finance, les assurances, plus les services tertiaires spécialisés, les logiciels, les services juridiques, etc., eh bien, on n'arrive qu'à un quart. Un quart des revenus régionaux relève de ces activités-là. Alors voilà, on peut compléter maintenant le tableau. Et puis vous voyez qu'il y a à côté de la case industrie, donc vous aurez compris que la case bleue industrie, c'est non seulement de l'industrie au sens traditionnel, mais aussi les services exportateurs, finance, assurance et autres. Et bien à côté, on a en rouge une case, alors j'ai mis entre guillemets tourisme, tourisme qui signifie en fait l'attractivité, la capacité à capter les flux de dépenses de la part des consommateurs. Donc c'est ce qu'on appelle le développement par les bases résidentielles et présentielles. On a donc ici la ville comme un lieu de consommation, mais la demande est extra-locale. Et puis il y a une quatrième case, les circuits courts, ça a d'ailleurs été évoqué tout à l'heure je crois par Madame Léchevine. Les circuits courts, ça peut paraître un peu particulier, là qu'on a donc une demande locale, mais pour des biens et des services qui d'habitude sont plutôt destinés à l'exportation. Alors je vais prendre deux exemples, c'est l'exemple de l'agroalimentaire. Vous savez aujourd'hui qu'il y a que les populations sont d'accord de payer davantage pour des biens alimentaires qui proviennent de la proximité, les paniers bio, les circuits courts, etc., etc. Un deuxième exemple, c'est celui de l'énergie. Aujourd'hui, de plus en plus, les énergies douces, renouvelables, sont en fait encastrées dans le territoire de manière décentralisée. Éoliennes, photovoltaïques, et tout ça en principe géré par des smart grids qui sont plus ou moins sous contrôle local ou organisés de manière locale. Un autre exemple intéressant, c'est la question de l'énergie 4.0, de l'industrie 4.0. On nous promet que dans un futur proche, il sera possible, avec des ateliers flexibles, de réaliser toute une série de biens localement, avec des plans sur la base de plans téléchargés sur Internet, par exemple dans le domaine de l'ameublement. Alors, donc cette case 4, circuit court, je pense qu'elle est pour l'instant relativement peu significative si on regarde le pourcentage des activités qu'elle représente. Dans la globalité. En revanche, elle est probablement appelée à croître au cours des années à venir. Et le modèle économique qu'il y a derrière, alors on peut le discuter, mais c'est celui de la substitution aux importations, une forme quelque part de déglobalisation, et peut-être qu'aujourd'hui, il y a effectivement une demande sociale pour une certaine, entre guillemets, déglobalisation dans un certain nombre de secteurs. Alors vous le voyez, on a ici, à gauche, des politiques traditionnelles qui permettent de faire entrer de l'argent dans la région, et à droite, des politiques qui visent plutôt à organiser la ville, à diversifier les activités. Réfléchissez un peu aujourd'hui à tout ce qu'on peut dire sur les questions d'innovation sociale, par exemple, ça va concerner la colonne de droite. Les questions de smart city aussi, c'est bien l'idée de réorganiser la ville, réorganiser les réseaux, intégrer tout ça, être plus efficace, plus équitable, plus durable, etc., de réorganiser les activités locales, donc d'améliorer les cases de droite. Toutefois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce qui est important de bien retenir, c'est qu'aujourd'hui, tous les territoires sont concernés par la mobilité des consommateurs. Et le résultat de cela, c'est qu'en fait, la proposition qu'on vous fait aujourd'hui, c'est de dire que si on veut véritablement comprendre le développement territorial aujourd'hui, on ne peut pas en rester à l'un de ces modèles, l'un ou l'autre. Il faut en permanence prendre en compte les quatre cases, les modalités différenciées relatives à ces quatre cases. Et le problème, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est que ces quatre types d'activités vont générer dans les territoires de nombreuses tensions. Ils vont aussi générer des complémentarités possibles, mais ils vont aussi générer des tensions. Alors, vous avez tous entendu parler de Barcelone, de Berlin, des endroits dans lesquels les populations locales se rebellent contre la présence massive de touristes qui a pour effet de faire augmenter les prix du commerce de détail, des services, restaurants et autres, et surtout de faire augmenter les prix de l'immobilier et donc de pousser à des effets d'éviction. Ici, ça c'est une tension. On voit bien qu'il y a une tension, même si d'un autre côté, le tourisme, on le sait, peut amener certaines complémentarités en termes de services, en termes d'événements, en termes d'activités culturelles, etc., etc. Je vous ai ici aussi fait figurer quelques exemples de circuits courts, par exemple ici dans le fond, des circuits courts qui évidemment sont intéressants pour les habitants, mais qui deviennent de plus en plus indispensables également du point de vue touristique. Vous pouvez guère imaginer des régions dans lesquelles on ne vous servirait pas des produits locaux, ou vous ne pourriez pas trouver des produits même industriels ou artisanaux fabriqués localement. Je vous ai mis ici un exemple d'une fabrique de chocolat en Suisse. Les fabriques de chocolat aujourd'hui, c'est vraiment de l'expérience économique. Une usine du groupe Nestlé qui a ouvert un centre de visite et d'ateliers, etc., un petit musée à côté de son entreprise en parallèle, est devenue la principale attractivité touristique de Suisse il y a 2 ans. Donc pour vous dire que ce ne sont pas des phénomènes négligeables. Pensez à Autostadt en Allemagne, par exemple, pour Volkswagen, dans toutes les grandes villes allemandes où on fabrique de l'automobile, eh bien, on a une mise en scène de cette production industrielle qui va de pair avec le tourisme. Je vous ai également mis une image de la Ruhr, là, avec le site du Zollverein. On a là un exemple d'un développement sur plusieurs dizaines d'années, hein, une stratégie qui a été mise en place depuis longtemps et qui permet, alors cette fois-ci via la patrimonialisation, de valoriser l'industrie et l'identité industrielle d'une région pour son développement territorial. Alors, en résumé, on a des complémentarités possibles. Il s'agit de les faire jouer, il s'agit de les exploiter au maximum. Dans le domaine du transport, du commerce, la santé, de l'éducation, de la programmation culturelle, et également les effets de notoriété sont extrêmement importants. On retombe là sur des cas classiques de développement de marketing territorial. Mais il y a aussi des tensions. Et ces tensions, elles sont extrêmement importantes à gérer. Alors, c'est des tensions liées, bien sûr, aux concurrences, enfin, ce qu'on peut observer souvent, des concurrences entre les habitants et les touristes. Donc les mobiles d'un côté et les immobiles, entre guillemets, de l'autre, avec toutes sortes de problèmes d'éviction et surtout de pression environnementale dans la ville ou sur certains sites naturels qui sont très importants. Et autre tension, c'est la compatibilité, ou souvent malheureusement l'incompatibilité, entre des activités productives d'un côté et des activités présentielles, résidentielles de l'autre. Donc le fait que certaines régions industrielles, pour des effets d'image, d'infrastructure, de cadre de vie, ont tendance à faire fuir les ménages, et en particulier les ménages aisés. Donc, en gros, le développement local, ce serait la capacité à gérer ces tensions et ces complémentarités. Alors, une dernière proposition, c'est de dire que, de se poser la question, qu'est-ce qu'on peut faire en termes de politique publique pour gérer ces tensions et faire jouer ces complémentarités? Mais on pose une hypothèse, l'idée qu'on aime bien ça en tant que chercheur, c'est en fait du travail pour les années à venir, c'est d'essayer de comprendre comment les acteurs locaux parviennent à s'organiser, à probablement collaborer, afin de faire jouer ces complémentarités et de résorber les tensions. D'accord ? Alors quand on dit acteurs locaux, bien sûr, c'est des milieux qui sont beaucoup plus larges que ne l'étaient les milieux innovateurs typiques des années 90, des années 2000, donc les milieux productifs locaux qui rassemblent avant tout les entreprises, centres de recherche, finalement une part relativement restreinte des acteurs de la région. Ici, bien sûr, sont les autorités politiques, les entreprises, les habitants, les médias, les touristes, les investisseurs, les propriétaires fonciers, etc. On doit trouver des solutions qui parviennent à articuler toutes ces différentes manières de faire. Voilà, alors je vais en rester là.